Cinéma, cinéma, Jacques Viguier, bonjour. Aujourd'hui, Alfred Hitchcock, un... Bienvenue à toutes et à tous sur Esprit Occitanie. Alors Hitchcock, j'ai mis Hitchcock 1 parce qu'il y a une filmographie qui est extrêmement longue, une période qui s'étend sur 50 ans, du muet au parlant, avec une période anglaise et une période américaine. Donc Hitchcock, c'est un metteur en scène que tout le monde connaissait, même assez tôt, à une époque où les metteurs en scène n'étaient pas connus. Dans les années 40-50, le public allait voir John Wayne, James Stewart, Jean Gabin, etc., etc. Donc, des acteurs. Mais à cette époque-là, aux États-Unis, il y avait deux réalisateurs célèbres. Le premier, qui est moins resté, et le second qui est resté. Le premier, c'est Cecil B. DeMille, qui avait fait Les Dix Commandements, Samson et Dalila. Et donc, le public le connaissait pour ses péplums en particulier. Quant à Alfred Hitchcock, il s'était manifesté à travers des films originaux et aussi un élément assez rare, le public connaissait sa silhouette puisqu'il apparaissait plusieurs fois dans les films. Donc il présentait cette silhouette ronde surmontée d'un visage joufflu et cela durait une trentaine de secondes, après il disparaissait. Donc c'est un réalisateur à succès, le public va voir ses films et parfois... Les critiques n'ont pas aimé Hitchcock dès le départ. Comme souvent, ça vaut pour Clint Eastwood en particulier, les critiques n'aiment pas tel ou tel auteur ou tel film, et au fil du temps, 20 ans, 30 ans après, le film est apprécié. On peut citer le cas de Sueur froide, Vertigo, titre original, qui est considéré aujourd'hui comme un des chefs-d'œuvre d'Hitchcock, mais qui à l'époque avait été critiqué. Donc je cite deux revues, donc je n'ai pas l'habitude de le faire, mais c'est assez caricatural. Un critique qui dit « Ces films vont distiller un tel ennui qu'ils endorment le spectateur ». Bon, très bien. Et l'autre critique qui dit « Ce film m'a fait suer au sens propre, mais énormément au sens figuré ». Donc on a une critique qui est assez forte et encore une fois, cela changera au fil du temps. On peut dire que c'est à partir de la fin des années 50 que la critique reconnaît Hitchcock. Et c'est la critique française, ça vaut aussi pour Woody Allen, qui est unanime à saluer le génie d'Hitchcock, et le public se précipite. Alors qu'aux États-Unis, cette double adoration du public et des critiques n'est pas encore très poussée, et c'est petit à petit qu'Hitchcock se fait une place à part dans l'histoire du cinéma. Donc de très nombreux films qui sont connus, mais là je lance une musique sans dire de quelle musique il s'agit, mais c'est un des films qui est le plus connu d'Hitchcock et qui a une histoire particulière. Donc voici la musique. On a écouté Psychose parce que c'était un des films les plus célèbres d'Hitchcock. Or, ce film est un film particulier, qui est un film à petit budget. À l'époque, Hitchcock sort d'un gros film, entre guillemets, qui s'appelle La mort aux trousses, North by Northwest, avec Cary Grant, et il décide de changer un petit peu. Il en a marre des films en couleur, à gros budget, un cinémascope, etc. Et il décide de faire un film en noir et blanc, très ramassé, avec un sujet original, et plusieurs éléments qui détonnent avec le cinéma de l'époque. Alors, quels sont les éléments qui peuvent détonner ? Tout simplement, on peut citer trois scènes. L'héroïne va partir en ayant pris de l'argent à son travail et elle tient un papier sur lequel les sommes sont marquées. Elle arrive à un hôtel et elle va déchirer ce papier, elle le jette dans les toilettes, elle appuie sur la chasse et l'eau emporte le papier. Sauf qu'à cette époque, 1960, il y avait encore un puritanisme et cette scène avait choqué dans la mesure où c'est un élément qui n'apparaissait pas. Alors par la suite, bien sûr, l'élément est apparu dans tous les sens du terme et dans n'importe quelle situation, mais là, c'était vraiment original. Autre originalité, la mort du personnage principal. Il se trouve que Hitchcock décide que ce personnage voleur, au tiers du film, va mourir. Et là, c'est une surprise pour le spectateur qui ne s'y attend pas. D'ailleurs, Hitchcock avait demandé à l'époque que ceux qui avaient eu le film ne disent rien et n'informent pas les futurs spectateurs de ce qui allait se passer. Donc cette mort brutale est inattendue. Et enfin, autre élément, je dirais qu'élément central, c'est la scène de la douche, puisque Jeannette Legge est tuée dans la douche à coups de couteau. On pense par la mère du héros, Norman Bates, joué par Anthony Perkins. Or, ce n'est pas le cas, bon, vous le savez, puisque vous avez certainement vu le film, le personnage de Norman Bates est possédé par sa mère, et en réalité, c'est la mère qui tue, sauf que Anthony Perkins étant possédé par sa mère, c'est lui qui va commettre ses crimes. Et cette scène sous la douche est constituée de plusieurs dizaines de plans très très rapides, et on voit les coups de couteau, on voit Jeannette Legge qui s'écroule dans la baignoire, et on voit l'eau qui part en même temps que l'œil devient fixe et que la mort est là. Donc cette scène est ultra célèbre, elle a été parodiée des dizaines de fois, et d'ailleurs Hitchcock lui-même a été parodié. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il était célèbre alors que le réalisateur ne l'était pas dans les années 50, et on parle alors de film hitchcockien. Et la critique reprendra cela de film en film pour d'autres réalisateurs en disant « Voilà, ça, c'est une atmosphère hitchcockienne. » Autre élément de psychose, c'est justement l'élément psychiatrique. Puisqu'on ne comprendra qu'à la fin que le personnage que l'on croit calme, qui s'occupe du motel, etc., est possédé par sa mère et est dans une psychose délirante. Et le film est tourné de telle façon que le spectateur se fait manipuler. On voit la mère près d'une fenêtre, la silhouette de la mère qui est assise. Et à un moment donné, un personnage est tué. Et la scène est filmée de telle manière qu'on ne pouvait pas faire autrement. C'est la meilleure façon de poser la caméra. Et c'est ce que Hitchcock a toujours fait. La meilleure façon de mettre la caméra face à une scène. Donc là, on a un palier. Un détective monte les marches et arrive en haut des marches. La scène est filmée ensuite par-dessus, en haut, et on voit le personnage qui sort de la pièce et qui va donner des coups de couteau au détective qui s'effondre dans l'escalier. Donc cette scène ne pouvait pas être filmée autrement, puisqu'on est au-dessus et on pense que c'est la mère. Sauf que, en réalité, c'est le fils qui est possédé par la mère. Donc cette filmographie d'Hitchcock va s'enrichir d'un film qui aurait peut-être dû être un film à petit budget en noir et blanc et sans succès, sauf que le succès est venu et Hitchcock a été encore une fois plus célèbre que ce qu'il n'était. Et je vous ai fait écouter la musique de Bernard Herrmann. Il y a des réalisateurs qui font un couple avec un musicien, comme Sergio Leone avec Ennio Morricone ou Nino Rota avec Fellini. Et ici, Hitchcock fait couple avec Bernard Herrmann, qui a fait plusieurs musiques, notamment la musique du film précédent. Donc, travail de Hitchcock, c'est de tout contrôler, de tout suivre et de tout maîtriser. Donc il va avoir déjà en Angleterre un certain succès et par la suite aux États-Unis, il continuera à avoir ce succès. Il y a même eu une situation assez originale, des films d'Hitchcock qui n'avaient pas été distribués pendant 30 ans, des années 50, qui ont été distribués dans les années 80, notamment L'homme qui en savait trop, Sueur froide, Fenêtre sur cour, et qui ont eu un succès auprès du public, je dirais, encore une fois, plusieurs décennies après qu'ils aient été diffusés. Donc le succès est toujours là, même au fil du temps, et Hitchcock devient, encore une fois, une référence absolue pour les cinéphiles et pour certains réalisateurs. On peut citer, par exemple, Brian De Palma. Brian De Palma, on dit, pour certains films, qu'il a mis une atmosphère hitchcockienne. D'autres aussi, mais c'est peut-être Brian De Palma qui atteint le plus haut degré de référence à Hitchcock. Donc, je vous parlais de l'époque anglaise et puis de l'époque américaine. L'époque anglaise commence à l'époque du muet. Et il va tourner un dernier film anglais avec La Taverne de la Jamaïque au début des années 40. Et il part aux États-Unis pour tourner Rebecca. Et c'est un grand producteur qui l'appelle, c'est David O. Selznick. Le producteur est célèbre pour un film qui a fait exploser les entrées, aujourd'hui qui est assez critiqué, c'est Autant en emporte le vent. Donc c'est un producteur assez directif, et il y aura des mémos échangés entre lui et Hitchcock, où il demande de modifier ceci ou cela. Il y a d'ailleurs un ouvrage de David O. Selznick qui s'appelle « Mémos », et qui montre comment le réalisateur est soumis au producteur, comment le producteur vient lui demander de mettre en place tel ou tel plan ou critiquer ce plan qui n'aurait pas été fait. Pour Hitchcock, ça a été plus difficile dans la mesure où il l'avait fait venir, où il était déjà connu, et il a réussi à trouver son indépendance, Hitchcock, de Rebecca. Rebecca, où il y a eu une atmosphère encore spéciale. Ce ne sont pas souvent chez Hitchcock des films d'horreur, pas du tout, mais c'est la réalité qui est difficile à vivre et qui est parfois manipulée, donnant l'impression d'un film fantastique. Ainsi, dans Rebecca, c'est une jeune femme qui se marie avec un homme qui a déjà été marié. Elle vient dans son manoir qui est assez sombre et la femme de chambre est encore sous l'emprise, on pourrait dire, de la femme précédente. Elle déteste cette nouvelle femme et cela entraîne des scènes psychologiquement assez violentes alors qu'elles ne le sont pas réellement de manière physique. Donc, le parcours d'Hitchcock s'étale sur un certain nombre d'années. Encore une fois, je vous le disais, une cinquantaine d'années. Alors, quelques mots sur le parcours d'Hitchcock. Comment est-il venu au cinéma? Donc, Hitchcock va naître à Londres, bien sûr en Angleterre, première période, en 1899. Il sera... élevé, alors c'est important peut-être pour ses blocages ou ses obsessions chez les jésuites, et il fait des études d'ingénieur, il travaille dans une compagnie télégraphique. Et puis il se trouve qu'il va entrer par la petite porte, on pourrait dire, dans le monde cinématographique, il devient le rédacteur d'intertitres dans une société. Alors le rédacteur d'intertitres, à l'époque du muet, il faut savoir, si vous avez vu des films muets, qu'on intercale des intertitres pour dire ce que pense le personnage, ou ce que dit le personnage. Et il rédige cela, donc c'est une tâche secondaire. Mais ensuite, il va progressivement devenir scénariste, assistant réalisateur, puis réalisateur. Donc là, on pourrait dire la filmographie d'Hitchcock est assez longue. Elle va commencer à l'époque du muet, et son premier film parlant est un film de 1929 qui s'appelle Blackmail, Chantage. Donc, parmi les titres de cette période anglaise, il y a « Jeune et innocent » ou « Une femme disparaît », « Les 39 marches », où on a déjà l'idée d'espionnage, de manipulation. Ainsi, « Une femme disparaît », on est dans un train. Là aussi, c'est original. On file dans un train. « Une femme disparaît », c'est le sujet. Une femme assez mûre disparaît. Et un couple dit « Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» En fait, elle a été enlevée. Tous les membres, tous ceux qui sont dans le train, les passagers disent « mais non, on ne l'a jamais vu ». Et par contre, eux sont persuadés qu'ils l'ont vue et qu'elle a été enlevée. Donc, période anglaise, période américaine. Je vais maintenant vous faire écouter un morceau qui est aussi extrêmement célèbre. C'est un film qui a eu un succès phénoménal, qui est célèbre par une scène, je vais la développer, où... Cary Grant se trouve face à un avion. Donc le film, c'est La mort aux trousses. Voici la musique de La mort aux trousses. Hitchcock, c'est la puissance de l'image. Chez lui, on n'a pas de dialogue développé inutilement, mais l'image est centrale. Alors cela s'explique peut-être par le fait qu'il a été réalisateur à l'époque du muet, mais il arrive dans certaines scènes à nous faire percevoir les pensées d'un acteur, d'un personnage, sans passer par la langue, sans passer par le dialogue. Et Hitchcock critiquait ce qu'il appelait la photographie des gens qui parlent. Donc cet élément, il ne le veut pas. L'arrivée du parlant ne l'a pas fait changer de technique. Il reste toujours attaché à cette logique. Le dialogue est parfois anodin, mais ce sont les visages qui vont traduire les sentiments forts, jalousie, colère, etc. etc. Et la caméra le montre et pas le dialogue. On a par exemple au début du film Marnie, de longues scènes sans dialogue où on voit une femme qui est obsessionnellement attachée à certains éléments, ce qu'on comprendra plus tard, et on va la suivre sans qu'il y ait de dialogue. De même, on peut citer une scène du film Les Enchaînés. Les Enchaînés, c'est un film où Cary Grant est un espion et il conduit Ingrid Bergman à se marier avec un espion allemand. On est pendant la guerre. Et cet espion allemand va vraiment tomber amoureux de cette femme qui va le manipuler. Et en particulier, il y a un élément qui est dans la cave. Il y a certainement une chose qui est cachée et qui correspond à un espionnage. Non, il faut la clé de la cave que Cary Grant doit récupérer. Donc, Ingrid Bergman va la sortir du trousseau de son mari et elle la tient à la main. Et c'est une longue scène où la caméra vient d'assez haut dans la pièce. Elle se focalise, elle s'approche sur la main tenant la clé. Et son mari arrive les deux mains ouvertes. Alors on se dit, elle va être prise sur le fait. Et elle s'avance, elle fait ce classique mouvement avec les bras qu'on trouve souvent chez les Américains. Et donc, elle réussit à garder la clé. Donc, cette situation apparaît aussi pour des objets Il y a un film qui s'appelle Frenzy, qui est un des derniers films tournés par Hitchcock, qui suit un tueur en série, et on identifie le personnage à travers une cravate. Donc le héros cherche une cravate pour arriver à démasquer le personnage qui est le criminel qui doit être arrêté. Donc cette originalité, elle est constante chez Hitchcock et elle va passer par ce qu'on appelle des plans-séquences. Le plan-séquence, c'est un plan dans lequel la caméra suit les personnages et on ne va pas faire des plans de coupe, on ne va pas faire comme dans un dialogue entre deux personnages où la caméra filme l'un puis filme l'autre. Là, le plan-séquence, on suit l'ensemble des personnages sur le même plan. Donc, cette volonté d'Hitchcock, c'est de maintenir une sorte de pression du temps et d'arriver à travers ces plans-séquences à marquer cette obsession du temps. Alors, il y a un film qui s'appelle La Corde qui est relatif à cette pression du temps, mais je vais d'abord vous faire écouter un film qui est plus tardif, qui s'appelle L'homme qui en savait trop. Dans L'homme qui en savait trop, il y a deux versions. Celle-là, c'est la version 1956. Pour situer le morceau, on a un couple, James Stewart, Doris Day, dont l'enfant a été enlevé, et ils vont le chercher dans une ambassade, un personnage qui a enlevé l'enfant. Et pour être écouté de lui, Doris Day, qui est une chanteuse dans le film, va chanter un morceau qui est Que sera, que sera. Et la caméra suit en quelque sorte la montée du son vers l'enfant dans une chambre pour que celui-ci entende sa mère. Donc c'est là aussi très original. Suivre la montée du son, c'est assez exceptionnel. Donc voilà, L'homme qui en savait trop, chanson Que sera, sera.
When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Que sera, sera. Whatever will be. The future's not ours to see. Que sera, sera. What will be. When I grew up and fell in love, I asked my sweetheart, what lies ahead? Will we have rainbows day after day? Here's what my sweetheart said. Ever will be, the future's not ours to see. Que sera, sera. What will be. Now I have children of my own. They ask their mother, what will I be? Will I be handsome? Will I be rich? I tell them tenderly. Que sera, sera. Whatever will be, the future's not ours to see, que sera, sera, what will be.
Donc, plan séquence qui culmine dans la corde. Alors, quel est le sujet de la corde? Ce sont deux étudiants qui ont comme professeur James Stewart, et James Stewart fait du paradoxe sur la vie, sur la mort, etc. Et ces deux étudiants prennent au pied de la lettre ce que dit leur professeur, ils vont tuer un de leurs collègues, et il y a une malle dans la pièce, ils vont mettre le corps dans la malle. Et à ce moment-là, surviennent non seulement le professeur, mais plusieurs personnes, et toute la question qui se pose au cours du film, c'est est-ce qu'il va être trouvé, est-ce que le corps sera trouvé dans le coffre? Alors, l'originalité, c'est que tout serait tourné en suivant. Un peu comme un film qui s'appelle Birdman, où on a l'impression que le film est un plan séquence du début à la fin, qu'on suit le même plan. Alors que ce n'est pas vrai. Il y a eu Dunkerque aussi dans ce domaine-là. Et donc, on a la situation où tout le monde tourne autour du coffre. Et pour changer de bobine, parce qu'à l'époque, il y a des bobines de 10 minutes pour les films, La caméra passe derrière ce fameux coffre ou derrière le vêtement d'un des personnages. Et donc, on a l'impression qu'il y a ce plan séquence tout au long du film. C'est donc une sorte de prouesse qui est faite avec la corde. Alors, autre film qui est une gageure, c'est Lifeboat. Alors, Lifeboat, c'est quoi ? Eh bien, bateau de sauvetage. On a un bateau qui coule. Et dans un canot de sauvetage, on a plusieurs personnages. Et on reste tout le film sur le canot de sauvetage. On ne sort pas de là. Vous imaginez donc le travail qui est nécessaire pour arriver à animer l'action et faire bouger de manière assez limitée les personnages. Et j'y reviendrai peut-être la prochaine fois, il y a l'apparition d'Hitchcock. Alors là, c'est une apparition assez originale. Hitchcock ne peut pas être physiquement présent dans le bateau. Alors à ce moment-là, on voit glisser au fil de l'eau à côté du bateau une revue qui est ouverte. Dans cette revue, il y a cette fameuse, ce fameux dessin que l'on trouve souvent. Vous voulez maigrir ? Voilà, avant, comment vous êtes et après. Donc avant, vous êtes très gros et après, vous êtes maigre. Et l'originalité d'Hitchcock, l'idée amusante, c'est qu'il se présente lui-même sur ce personnage, sur cette revue, avec gros, d'abord, lui, et à côté, maigre, bon, lui, mais effectivement, amaigri. Donc, cette idée de faire un film autour d'un radeau de sauvetage et de se présenter au passage comme ça, c'est assez amusant. Alors, autre film qui est une gageure, c'est Fenêtre sur cour. Fenêtre sur cour, c'est James Stewart qui a la jambe cassée et qui est bloqué sur son siège et qui regarde ce qui se passe dans l'immeuble, les pièces en face. Alors, il a l'impression que quelqu'un est tué. Son ami, qui est joué par Grace Kelly, vient et il essaie de la convaincre d'aller de l'autre côté et de vérifier. Donc là aussi, il joue avec le cinéma. Le cadre de la fenêtre, c'est le cadre du cinéma. Donc voilà à peu près ce que je voulais dire sur l'originalité d'Hitchcock. Vous voyez qu'aujourd'hui, ce n'est pas une suite de films, mais une sorte de thématique par rapport à ce qui a été élaboré par Hitchcock. Je vous ai dit tout à l'heure Hitchcock 1. Il y aura donc, dans quelques jours, Hitchcock 2, où nous retrouverons donc ensemble. C'était Cinéma Cinéma, une émission de Jacques Viguier. Avec à la technique Tiffaine Lemen. Vous pouvez retrouver le podcast de cette émission ainsi que ceux de toutes les autres sur le site de la station Esprit Occitanie ainsi que sur l'application pour smartphone. Bonne semaine à toutes et à tous.